Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans les fantômes du paradis.
Trent stood at the edge of the rip, stared into the illimitable gulf of the unknown, the Stygian world yawning blackly beyond. Trent's eyes refused to close. He did not shriek, but the hideous, unholy abominations shrieked for him.
Salomão, Saquistão. Tu és polícia, tu és ladrão. Aniki bebê, aniki vovó. Passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, Salomão.
Hier soir était projeté en Cantor Aniki Bobo de Manuel de Oliveira, dont vous avez peut-être reconnu la comptine.
Cavaquinho, Salomão, Saquistão. Tu és polícia, tu és ladrão. Eu não quero que seja ladrão. Quem manda aqui sou eu, sou o capitão. Já disse.
Et pour ce tout premier numéro de l'année, chères auditrices et chers auditeurs, Hugo a accepté de revenir nous parler un peu plus en détail de ce film étonnant et du cinéma portugais en général dont il est un spécialiste. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est que ce film, Hugo ?
Alors le Aniki Bobo de Manuel de Oliveira, c'est un film qui est en fait sorti en 1942. Et donc le film se déroule à Porto et raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre trois jeunes enfants, Carlitos, Teresinha et Eduardo. Et donc en fait une rivalité s'installe entre Carlitos et Eduardo pour l'amour de Teresinha. Et en fait cette rivalité va pousser Carlitos à plusieurs écarts de conduite, disons, qui vont le conduire à affronter le monde des adultes. Et le film s'intéresse en fait à pour personnages principaux toute une bande d'enfants de Porto qui voilà est assez belle et assez inédite dans ce cinéma.
Oui, parce que tu me disais que Aniki Bobo est un peu un apax, un film comme ça qui surgit dans le cinéma portugais, mais aussi dans l'histoire du cinéma en général. Donc c'est où un peu ?
Bah en fait, tout à fait, parce que c'est un film en fait qui est considéré par la cinéphilie, disons, mondiale et même la critique mondiale comme un des premiers films d'auteur du Portugal, premier film d'auteur portugais. Et en fait, il a gagné cette reconnaissance surtout grâce à Jorge Sadoul, qui est historien du cinéma et qui a publié son histoire, sa grande histoire du cinéma en 1949. Mais aussi André Bazin et Au Cahier du Cinéma qui ont fait en fait un film très important et un film, voilà, un premier film d'auteur portugais en lien notamment avec le néo-réalisme, pardon, qui se développait et qui émergeait à l'époque dans les années 45-50.
Oui, parce que c'est comment tu le relis ce film certes qui plastiquement peut ressembler au néo-réalisme italien, mais comment tu le relis peut-être plus formellement à ce cinéma?
Ben, disons que déjà en fait ce qui est assez étonnant c'est déjà l'importance des personnages d'enfants, voilà, l'importance de la figure de l'enfant et notamment du regard des enfants. C'est-à-dire que Manuel de Oliveira, contrairement à d'autres films qui convoquent des enfants à l'époque, choisit réellement de prendre en fait le point de vue des enfants et de filmer à hauteur d'enfant et aussi de placer un petit peu le spectateur dans les yeux des enfants. Donc Il y a quelque chose d'assez... il y a des petits effets en fait, de style, des effets formels, notamment des travelling assez hallucinatoires ou des rêves qui peuvent faire penser en fait, un peu à des cauchemars d'enfants ou à des perceptions enfantines, notamment vis-à-vis des adultes, qui sont parfois effrayantes. Notamment dans le film, à un moment, il y a un policier qui revient assez souvent et il apparaît toujours en contre-plongée comme une figure, voilà, autoritaire et assez effrayante. Donc il y a vraiment cette idée chez Oliveira de donner vraiment une place au regard de l'enfant et de fonder un peu finalement la vision du spectateur et fonder un peu la confiance du spectateur dans le regard de l'enfant en fait.
E hoje cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino.
Le néoréalisme italien, on sait que ça a surgi dans l'immédiat après-guerre en Italie, sur un champ de ruines un petit peu, dans des espèces de phénomènes d'errance, etc. Est-ce que le néoréalisme portugais, il entretient ce même rapport à la guerre ?
Bah, du coup, non, puisque effectivement le film sort en 1942, et à ce moment-là, le Portugal est encore sous le joug de la dictature de Salazar, qui est une dictature assez particulière même à l'échelle européenne, puisqu'elle n'est pas du tout en fait engagée dans la guerre mondiale. Elle entretient des liens assez étroits avec l'Allemagne et les forces, disons, de l'Axe, mais elle est aussi alliée au Royaume-Uni, en fait, historiquement. Donc c'est assez particulier, le Portugal reste neutre, en fait, pendant cette guerre, et le film, malgré le fait qu'il sort en 1942, ne traite pas du tout de ce sujet de la guerre. Par contre, il traite effectivement de la dictature et peut-être de la situation sociale, un petit peu comme on le voit dans le néoréalisme italien, mais en fait, il n'y a pas du tout, comme en Italie, cette idée, après-guerre, de refonder aussi quelque chose, de refonder un cinéma, de refonder une culture italienne qui soit en accord avec, disons, de nouvelles valeurs, on pourrait dire un petit peu humanistes, ou des valeurs qui soient davantage éthiques comparées aux années de fascisme et de dictature que viennent de subir l'Italie. En fait, non, au Portugal, pour le coup, on est plutôt à l'apogée de la dictature de Salazar. Et en fait, c'est pour ça que le film est aussi particulier, puisqu'il traite vraiment de cette question de la dictature en omettant, en fait, mais je pense que c'est aussi lié à des questions de censure, la guerre et la situation, en fait, européenne et mondiale. Et donc, effectivement, à la différence du néoréalisme italien qui vient un petit peu plus tard, qui est vraiment après-guerre dans un but de reconstruction, de refondation aussi de l'Italie, ce film-là apparaît plus comme une contestation de la dictature, voilà, davantage.
Et comment la figure de l'enfant s'insère dans tout ça, dans cette idée de contestation politique ? Enfin, comment l'enfant peut-il être une figure de contestation ?
Bah justement, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est cette idée, en fait, que voilà, l'enfant n'est pas encore soumis aux pressions et aux règles et à l'ordre du monde des adultes. Et en fait, il est une figure un petit peu subversive comme ça, qui va permettre à Oliveira de jouer sur des codes et de jouer sur des choses qui concernent la dictature, notamment le lien avec le policier que j'ai déjà évoqué, qui revient en fait, qui est toujours présent en fait, qui est toujours là, qui surveille un peu les enfants, qui surgit en fait tout le temps de chaque endroit. Et en fait, cette figure du policier est assez intéressante, puisqu'elle convoque en fait la répression et la police de la dictature de Salazar. Mais vu que le policier s'adresse à des enfants, techniquement, il ne peut pas les arrêter comme des prisonniers politiques, tout ça. Donc, il y a une certaine liberté qui est laissée aux enfants pour se moquer du policier, le subvertir, le tourner en dérision. Et ça, pour le coup, c'est un choix assez fort, et c'est un choix politique assez fort de donner la parole aux enfants, puisque ça permet cet écart, ce pas de côté, en fait, qui permet de subvertir la société et aussi d'être un peu plus indulgent vis-à-vis de la censure, puisque bon, voilà, ce sont des enfants, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, donc voilà, peut-être c'est un moyen aussi, ce personnage d'enfant, de contourner un petit peu la censure et de rester subversif tout en disant oui, mais ce sont des enfants, donc a priori pas de problème politique sérieux.
Et du coup, ce film, quelle a été sa postérité dans la suite de l'histoire du cinéma portugais, et plus particulièrement la postérité de cette image de l'enfant, de cette figure de l'enfant qu'il convoque ?
Ben, c'est assez intéressant, puisque dans le cinéma portugais, on voit en fait que généralement les auteurs, comme Manuel de Oliveira, comme João César Monteiro ou Miguel Gomes plus récemment, en fait, sont des réalisateurs qui sont pas beaucoup vus au Portugal par les Portugais eux-mêmes, mais qui, en fait, leurs films ont une vie assez internationale au cinéma, enfin, dans les festivals et dans la critique. Mais du coup, en fait, si on pourrait peut-être parler de la postérité d'Aniki Bobo, ce serait dans le cinéma de Miguel Gomes, pour le coup, notamment dans ses premiers films, La gueule que tu mérites, ou ses premiers courts-métrages qui sont disponibles dans les éditions DVD éditées par Shellac. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment cette place qui est donnée à l'enfant. Vraiment cette idée que le regard de l'enfant en fait peut permettre une forme d'enchantement, voire de réenchantement du monde. Finalement, le regard de l'enfant crée aussi une forme de regard poétique sur le monde, une forme de beauté, voire même de vérité en lien avec le néoréalisme. Il y a vraiment cette idée que l'enfant, c'est lui qui détient la vérité un petit peu poétique du monde, on pourrait dire. Et du coup, en lien avec ça, je pourrais parler de la phrase de Baudelaire qui dit que le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Phrase assez célèbre, mais qui, pour le coup, il me semble, correspond bien à cette idée du cinéma portugais et à cette idée que voilà, le passage par l'enfant et par la figure de l'enfance est vraiment quelque chose qui permet de retrouver une sorte de vérité poétique du monde. Et ça, Miguel Gomes le travaille dans cette idée poétique, mais aussi de manière très contemporaine, avec des figures enfantines, notamment des figures et des formes de récits enfantins, comme le conte, la fable. Il les reprend et en fait il en fait des adaptations contemporaines. Et là où presque ça dépasse aussi le cadre juste de l'enfance, c'est que les personnages de Miguel Gomes, en fait, pour la plupart, sont des enfants, en fait. Même s'ils sont adultes, ils résonnent ou parfois fonctionnent comme des personnages d'enfants. Et même s'ils sont jeunes, adolescent ou jeune adulte, il y a quand même toujours quelque chose de l'enfance qui subsiste. Et ça, pour le coup, c'est très visible dans son tout premier film qui s'appelle La gueule que tu mérites, qui raconte en fait l'histoire d'un jeune trentenaire qui vient d'avoir 30 ans et qui tombe dans une sorte de dépression et il est recueilli par sept jeunes adultes qui sont un peu les sept nains. Et du coup, en fait, il s'endort. Et ces sept jeunes adultes le recueillent et il leur arrive pas mal d'histoires, comme un petit peu les sept nains dans Blanche-Neige, il leur arrive voilà, des petites histoires un peu extraordinaires. Et en fait, on comprend à la fin du film que tout ça, c'était un conte, et que ces personnages voilà, qui incarnent les sept nains sont en fait de grands enfants. Et aussi, ont refusé quelque part de grandir et ont refusé aussi le monde qui leur était proposé. C'est-à-dire voilà, l'incertitude politique, la crise, tout ça. Ils refusent ça et tentent en fait, de sublimer leur monde dans une forme de renchantement poétique très lié à l'enfance, pour le coup.
Oui, parce que du coup, le fait de devenir enfant, enfin, cette espèce d'enfance qui porte cette puissance créatrice, comme pourrait dire par exemple Nietzsche, ça devient une manière de refuser un ordre politique des choses inacceptable.
Oui, voilà, et ça, pour le coup, il me semble que c'est totalement lié à l'histoire du Portugal et à l'inverse de l'Italie et du néoréalisme qu'on a déjà évoqué. Il y avait vraiment, dans le regard de l'enfant, un aspect bien plus en Italie de rédemption, un aspect plus de le regard de l'enfant et l'enfant va nous dire la vérité du monde et va permettre finalement de sauver le monde et aussi voilà, sauver les enfants, faire attention aux enfants, c'est aussi un petit peu sauver le monde. Et en fait au Portugal, il y a un petit peu ça bien sûr, puisque voilà, il y a quand même cette idée que la dictature c'est pas un système acceptable pour la plupart des réalisateurs et effectivement il y a une idée de refonder aussi le Portugal, mais c'est bien plus politique et bien plus irrévérencieux, disons, qu'on le voit en Italie. Il n'y a pas du tout une forme de tristesse, comme on voit chez Rossellini, notamment dans Allemagne Année Zéro ou dans Europe 51, où on voit des enfants qui en viennent à se suicider parce que voilà, le monde est devenu trop violent ou inacceptable et trop dur. Et là, en fait, pas du tout au Portugal. Il y a vraiment cette idée qu'au contraire, l'enfant se dresse finalement contre la société, contre l'ordre établi. Et c'est le cas dans Aniki Bobo, pour le coup, en lien avec la figure du policier ou en lien avec les figures adultes dans le film. Mais c'est aussi le cas plus tard chez Miguel Gomes, dans le sens où la figure de l'enfant permet un réenchantement poétique et politique du monde qui conteste en fait l'ordre établi, le système politique portugais et européen aussi.
Amar descalçadinhas para dar ao meu amor. Perdi-me nas janelinhas que espreitavam do vapor. A espreitar lá do vapor, vi a cara de um francês. E seja lá como for, eu vou ao mar outra vez. Eu fui ao mar outra vez e a vapor da balada. Já lá não vi o francês, vindo lá todo molhado. A pulga da balança não faz mal, não era minha. Vou ao mar buscar sardinha, já me esqueci do francês. A ideia não é minha, nem minha, nem de vocês. Coisas que eu tenho na ideia, depois de ter ido ao mar. Será que me entrou areia onde não devia entrar?
Ce qu'on voit beaucoup dans Nicky Bobo, qui est un film assez court, finalement 1h10, c'est un travail qui, pour le coup, est vraiment symptomatique aussi du cinéma portugais. C'est un travail un peu de fable, un travail de fable, un travail de conte avec une certaine morale à la fin. Mais en fait, Nicky Bobo dépasse très vite ce cadre de fable et sa propre morale pour évoquer bien d'autres sujets, la censure, la police, la dictature. Mais en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le cinéma portugais, c'est vraiment cet amour et cette reprise permanente de fables, de contes, de récits, en fait, d'une multitude de récits, de chansons aussi, notamment à travers le fado, à travers énormément de pratiques musicales qui se font parfois dans la rue, qui se font parfois de manière un petit peu improvisée aussi. Et en fait, cette importance de la fable, du récit oral, du chant, c'est quelque chose qui traverse pour le coup tout le cinéma portugais, jusqu'à Miguel Gomes et même jusqu'à d'autres réalisateurs plus récents. Et c'est, je trouve, assez intéressant puisque c'est vraiment le seul cinéma où on voit vraiment où le sujet principal pourrait être en fait l'amour de ce qu'est raconté, l'amour du récit, l'amour de la narration, l'amour du partage aussi du récit et donc forcément la création d'une communauté autour de ces récits. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier au Portugal et que je retrouve assez peu dans d'autres cinémas. Et il y a aussi vraiment cet amour du merveilleux, du fantastique. C'est pas vraiment comme en France où on est dans une esthétique peut-être plus réaliste, plus naturaliste aussi parfois. Il y a vraiment en fait cette idée que tout est possible, qu'au cinéma tout est possible et que si on veut faire intervenir des personnages mythiques, des personnages bibliques, des figures de contes, des figures de fables, et c'est tout à fait possible et on se le refuse absolument pas. Et ça, je trouve que c'est très intéressant puisque ça permet de produire un discours politique qui est différent du réalisme et du naturalisme, qui peut-être conduit quelque part à certains moments à l'impasse, en fait. Mais là, au contraire, on utilise, disons, le récit et les propriétés du médium cinématographique pour construire un vrai discours politique original en lien avec qu'est-ce que c'est raconter, qu'est-ce que c'est retrouver l'expérience, qu'est-ce que c'est que retrouver à travers les récits une communauté de personnes. Et ça, pour le coup, on le voit très bien dans le dernier film de Miguel Gomes de 2015, Les Mille et Une Nuits. C'est vraiment cette idée-là de refonder une légende du Portugal contemporain et de redonner la parole aussi à toutes ces personnes qui ont été exclues à cause des crises, des récessions successives qu'a subi le Portugal.
Eh bien, si Hugo vous a convaincu à découvrir plus avant le cinéma portugais, il y aura une table ronde avec de jeunes réalisateurs portugais le 22 octobre ici à l'ENS. Merci beaucoup Hugo d'avoir pris du temps pour venir nous parler de ce cinéma dans les Fantômes du Paradis et à bientôt pour de nouvelles aventures.